Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une question que l'on a beaucoup entendue au cours des derniers mois. Comment expliquer qu'un vaccin efficace et même plusieurs contre le Covid-19 ont été conçus et testés en moins d'un an, alors que depuis des décennies, les recherches pour trouver la substance capable de protéger contre d'autres infections redoutables, elles, n'aboutissent pas. La question se pose en particulier pour la maladie qui aujourd'hui est au centre de notre émission, le paludisme. Mais les choses sont peut-être en train de changer, puisqu'actuellement, plusieurs projets de vaccins antipaludiques, des candidats vaccins, sont en cours de développement. Fin de la phase 2 pour celui développé avec l'université d'Oxford, testé chez des enfants de 4 pays d'Afrique subsaharienne. Au même moment, BioNTech, qui a développé le vaccin anti-Covid avec le laboratoire Pfizer, ce labo allemand, donc, reprend la technologie de l'ARN messager et prévoit des tests fin 2022. Des espoirs concrets, mais la recherche, elle, n'en est pas à son coup d'essai, puisque pas moins de 140 projets de vaccins contre le palu se sont déjà soldés par des échecs. Et pour comprendre pourquoi, il faut saisir la complexité de cette maladie. Le parasite du paludisme compte 5000 gènes, lorsque le virus du Covid, lui, n'en compte que 12. Un parasite évolutif qui génère des infections qui épuisent l'immunité et qui continue de faucher plus de 400 000 vies chaque année, 94% en Afrique, et dans près de 7 cas sur 10, des enfants de moins de 5 ans. Prévention, traitement, recherche, prise en charge, les questions des auditeurs de Priorité Santé sur le paludisme et les réponses de nos invités avec nous en studio aujourd'hui. Professeur Sandrine Houzet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service de parasitologie de l'hôpital Bichat à Paris, coordinatrice du Centre national de référence du paludisme. Vous enseignez également la parasitologie à la faculté de pharmacie de l'université Paris-Descartes. On va parler de ces projets de vaccins anti-palu avec au Burkina Faso l'investigateur principal du projet d'essai sur le candidat vaccin R21. Oui, il y a toujours des codes hein, quand on prépare un nouveau vaccin. Le professeur Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie et enseignant associé à l'université Nasi Bono de Bobo-Dioulasso. Le professeur Tinto qui dirige aussi au niveau régional l'Institut de recherche en sciences de la santé à Nanoro. Projet de vaccin ARN messager soutenu également par le partenariat RBM en finir avec le paludisme. On donnera la parole tout à l'heure au docteur Abdourahmane Diallo, directeur général de ce partenariat Rollback Malaria. Et puis une actualité des maladies infectieuses très dense puisqu'en fin d'émission, nous parlerons des résultats de l'étude sur les survivants d'Ebola à 5 ans en Guinée avec le professeur Éric Delaporte, infectiologue spécialiste des maladies émergentes à l'IRD notamment. C'est lui qui a conduit cette étude post-Ebogi.
Priorité santé sur RFI.
On va avoir l'occasion d'évoquer ces recherches en cours, hein, l'espoir pour un vaccin, mais on va d'emblée insister sur ce point avec vous, professeur Sandrine Houzet. Tant que ces études ne sont ni terminées ni publiées, et donc que les vaccins ne sont pas produits et distribués à grande échelle, la lutte contre le paludisme, elle continue, elle va continuer de s'appuyer sur les outils existants de prévention et de traitement.
Tout à fait. La moustiquaire qui va prévenir la piqûre du moustique qui est le responsable de la transmission de la maladie et les traitements à bon escient uniquement quand le diagnostic de paludisme a été confirmé pour éviter de prendre des traitements inefficaces ou des traitements qui risquent d'entraîner une résistance du parasite s'ils sont mal utilisés. Et ce sont effectivement les deux outils majeurs pour lutter contre la maladie.
Et un grand outil aussi qu'on oublie souvent, c'est le test lui-même. La capacité de tester beaucoup plus rapidement, d'avoir un diagnostic beaucoup plus rapide, ça a vraiment amélioré la prise en charge.
C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il faut utiliser les traitements à bon escient. Et pour que ce soit effectivement à bon escient, il faut avoir des arguments. Donc le TDR qui va permettre de confirmer que c'est bien un paludisme quand vous avez juste une fièvre, qui est le principal symptôme du paludisme, mais qui n'est absolument pas spécifique, permet effectivement de traiter uniquement les cas de paludisme.
Alors les symptômes, justement, ça se manifeste surtout d'abord par la fièvre. Mais comment savoir que c'est vraiment un palu, puisqu'on le sait, professeur Houzé, la fièvre est le signe de nombreux autres problèmes de santé. On peut donc citer d'autres signes éventuels.
Malheureusement, il n'y a pas de signe spécifique du paludisme. Comme vous l'avez déjà dit, il y a la fièvre, qui en général est majeure, souvent ce qu'on appelle un embarras gastrique, c'est-à-dire des nausées, des vomissements, voire des diarrhées, souvent des myalgies, c'est-à-dire des douleurs dans les articulations, parfois des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Donc c'est un ensemble de symptômes, mais vous savez comme moi que ce sont les mêmes symptômes qu'on va retrouver dans de nombreuses infections virales, notamment toutes les infections type grippe, dont le Covid, etc. Et donc c'est difficile de faire un diagnostic rien que clinique pour confirmer que c'est le paludisme, d'où toute l'importance et la place des tests de biologie pour confirmer ce diagnostic potentiel.
Alors, toutes les crises de palu, hein, comme on dit communément, n'ont pas le même niveau de gravité. Professeur Houzé, qu'est-ce qui détermine la sévérité d'un paludisme par rapport à un autre ?
Ben, ça va être surtout les signes cliniques qui vont être observés, donc les signes cliniques banaux, entre guillemets, que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui vont plutôt être l'apanage de ce qu'on appelle le paludisme simple. Et puis après, ben, le risque, c'est que cette maladie évolue rapidement, très rapidement même, vers ce qu'on appelle un paludisme grave. Et là, ben, on va pouvoir observer un coma, voir des convulsions chez les jeunes enfants, et puis des signes biologiques de gravité qui sont associés à un développement plus important, une quantité plus importante de parasites qu'on va retrouver chez le malade.
Il y a une géographie du paludisme. Hein. Professeur, on distingue des pays à risque, le niveau de transmission. Ça nous renvoie à une question Facebook de Balthazar de Goma en RDC qui demande quelles sont les zones géographiques les plus exposées au paludisme.
Le paludisme est une maladie qu'on va retrouver ce qu'on appelle dans toutes les régions intertropicales, c'est-à-dire autour de l'équateur, donc là où il fait chaud, où c'est humide. Et c'est essentiellement l'Afrique dite subsaharienne qui sont les principaux pays d'endémie, où le paludisme va circuler quasiment toute l'année, quasiment dans toutes les régions et quasiment aussi bien dans les villes que dans les villages. Après, vous avez l'Inde aussi, qui est un continent qui est très affecté par le paludisme. Et puis des pays où la transmission est soit saisonnière, c'est-à-dire que pendant la période des pluies, là où il y a le plus de moustiques, ou uniquement sur certaines régions, comme notamment la zone amazonienne de l'Amérique du Sud, les forêts en Asie du Sud-Est. Mais malheureusement, on estime qu'il y a plus de 80 pays encore qui sont zones qu'on appelle zones d'endémie du paludisme, c'est-à-dire des régions où on va pouvoir contracter le paludisme.
Alors, il y a le vecteur, le moustique, le parasite. Différents types de parasites d'ailleurs. Est-ce qu'en fonction des zones géographiques, tel ou tel type de parasite sera présent ? Est-ce qu'en fonction de l'espèce parasitaire, la maladie sera plus ou moins grave ou même plus ou moins différente ?
Donc effectivement, il y a 5 espèces de plasmodium qui sont recensées, qui potentiellement pathogènes chez l'homme. En Afrique, c'est essentiellement du plasmodium falciparum. Ensuite, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, on a aussi plasmodium vivax qui est très présent. Plasmodium vivax a la particularité d'être à l'origine éventuellement de maladies chroniques, c'est-à-dire d'épisodes répétés au cours du temps, même si on n'est pas de nouveau piqué. Alors que plasmodium falciparum va faire, à chaque piqûre, va faire un accès clinique et après traitement va disparaître. Il faudra de nouveau être piqué pour développer la maladie. Plasmodium falciparum va donner des accès potentiellement très graves, mortels. Les autres espèces sont plutôt, à l'exception de Plasmodium knowlesi qu'on peut retrouver spécifiquement dans certaines régions d'Asie, les autres espèces sont plutôt sur des maladies paludisme simple avec moins de risque de décès.
Est-ce que ça veut dire pour autant, professeur, excusez-moi, que la prévention et le type de prise en charge sont déterminés en fonction de la zone habitée ou visitée ?
Pour le voyageur ?
Oui.
Effectivement, pour le voyageur, on va surtout faire une prévention vis-à-vis du plasmodium falciparum, qui est celui qui va pouvoir survenir pendant le voyage, qui va entraîner un risque de gravité. Les autres espèces peuvent être combattues essentiellement par la prévention, ce qu'on appelle la prévention personnelle antivectorielle, c'est-à-dire éviter de se faire piquer, donc porter des vêtements couvrants, dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides et utiliser des répulsifs anti-moustiques validés contre les moustiques tropicaux, dont l'anophèle responsable du paludisme.
Et quand on parle de paludisme saisonnier, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que là aussi, quand on va essayer par exemple de protéger les enfants, ça va être déterminant dans les traitements proposés.
Alors, paludisme saisonnier, donc ce sont des régions du monde où le paludisme survient essentiellement pendant la saison des pluies, là où il y a la prolifération des moustiques. Le reste du temps, la maladie semble disparaître. Et effectivement, les mesures mises en place pour combattre la maladie peuvent être différentes, avec notamment, dans certaines populations à risque, dont les jeunes enfants de ces régions, une potentielle utilisation d'une prophylaxie médicamenteuse, selon les recommandations locales, qui ne sera pas forcément mis en place pour les personnes qui vont vivre en zone d'endémie où la transmission est pérenne toute l'année.
Prophylaxie médicamenteuse, ça peut paraître compliqué pour les personnes qui nous écoutent. On dit simplement qu'il y a des programmes de distribution. On donne aux petits-enfants régulièrement des médicaments à certaines périodes bien limitées pour les protéger des formes les plus graves du palu.
C'est tout à fait ça. On va donner de façon répétée, pendant la saison des pluies, un médicament contre le paludisme pour éviter, si l'enfant a été piqué et si le moustique lui a transmis le parasite, que celui-ci se développe dans son organisme et entraîne potentiellement une maladie grave.
On est toujours dans le béaba du paludisme. Une dernière question, là aussi pour les voyageurs. Combien de temps les premiers symptômes du paludisme se manifestent-ils après les piqûres généralement? Ça veut dire, on doit rester vigilant combien de temps après le retour de la zone tropicale à risque?
Donc les premiers signes cliniques peuvent survenir 7 jours après la première piqûre, c'est-à-dire quand vous arrivez sur place, dans les 7 premiers jours, vous pouvez commencer à avoir les premiers signes cliniques, et on estime que ceux-ci peuvent survenir jusqu'à environ 2 mois après le dernier jour passé sur place où vous avez pu vous faire piquer.
Alors, professeur Houzé, nous allons prendre une question d'auditeur avant d'évoquer l'avenir de la vaccination contre le paludisme.
Priorité santé sur RFI.
Et on part tout de suite pour Pointe-Noire au Congo où on vous retrouve. Pitra Marcos, bonjour.
Bonjour, bonjour Caroline.
Alors, vous et vos enfants êtes touchés par le paludisme. À quelle fréquence est-ce que vous devez prendre des traitements?
Bon, en fait, moi j'ai ma fille qui est tellement touchée par le paludisme. Mais c'est toujours pas fréquent, c'est 2 ou 3 mois, le paludisme revient toujours.
Les enfants, c'est tous les 2 ou 3 mois. Et vous, c'est à quelle fréquence?
Bon, moi, c'est pas vraiment fréquemment, je pense. Moi, c'est une grande personne, je peux passer une année et demie, voire 2 ans. Pourtant, je puisse présenter les formes graves du paludisme.
Comment est-ce que vous réagissez, Pitra Marcos, lorsque les enfants sont malades? Déjà, j'aimerais que vous me disiez quels sont les symptômes qui vous font penser à ça doit être un palu, et quelle est la conduite que vous observez dans ces cas-là?
Bon, mais les symptômes sont toujours, c'est toujours les fièvres. Les fièvres persistantes à la maison. Quand vous commencez par 2 ou 3 jours, l'enfant fait la fièvre. Bon, vous commencez d'abord par lui donner et de lui prendre pour essayer de calmer la fièvre. Mais quand vous remarquez, c'est 2 jours, 3 jours, comme c'est un enfant, l'enfant ne peut pas tout expliquer. Donc, vous amenez l'enfant à l'hôpital. Quand vous amenez l'enfant à l'hôpital, on dit ainsi que vraiment quand
on. Et là, on fait le test à l'hôpital.
Oui.
Et là, à ce moment-là, on leur donne un médicament spécial.
On leur donne un médicament spécial. Mais moi, c'est là où j'ai. Là où je remarque, c'est plus que le médicament qu'on donne, c'est le même médicament qui revient fréquemment.
C'est toujours le même médicament et c'est ça qui vous pose question? Vous demandez si ce médicament est vraiment efficace?
Effectivement, la raison de mon appel, c'est celle-ci, c'est celle-là. En fait,
qu'est-ce qu'on vous a expliqué sur le médicament? On vous a expliqué qu'il permettait de soigner la crise ou on vous a expliqué qu'il permettait de se débarrasser du palu? Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement?
On nous dit que ça traite le palu, du débarrasser du palu.
Quand on vous dit ça traite le palu, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que le corps de votre enfant va se débarrasser du palu?
Oui, bon, en quelque sorte, on peut comprendre ça. Mais après, il y a des inquiétudes encore.
Il y a des inquiétudes et on comprend bien quand on est le papa d'enfants qui ont des crises de palu. Professeur Sandrine Houzé, là, il y a vraiment une explication qui est nécessaire. Quand on prend ces médicaments, on va dire que ça traite la crise, mais ça ne traite pas le fond.
En fait, ça va tuer tous les parasites qui sont responsables de la crise, mais par contre, ça va pas vous prévenir sur une future piqûre qui va pouvoir vous transmettre de nouveau le parasite.
Ça veut dire qu'il y a une réinfection quand même.
Tout à fait. Ça ne protège pas des réinfections ultérieures. Et donc, quand on reprend l'histoire de ce papa, enfin de ses enfants, on probablement que les symptômes vont disparaître rapidement sous traitement, ce qui prouve que le traitement est efficace. En revanche, ces enfants doivent de nouveau être piqués et donc une piqûre infectante permet de redévelopper, enfin, aux parasites, les parasites sont de nouveau transmis et donc ils vont être à l'origine d'un nouvel accès clinique. Donc c'est pas une résistance au traitement, puisque s'il y avait une résistance au traitement, ça voudrait dire que la fièvre ne disparaîtrait pas dans les jours qui suivent la prise du médicament.
Donc c'est bien efficace. Pitra Marcos, petite question, est-ce que les enfants dorment sous moustiquaire ?
Oui. Les enfants dorment sous moustiquaire.
Tous les jours sans faute. Tous les jours sans faute.
Récemment, il y a eu une campagne de distribution de moustiquaires prévenus. Tout le monde en récit. 2, 3, 4 moustiquaires. À la maison, moi-même, j'achète.
Est-ce qu'ils jouent dehors le soir quand la nuit est tombée, des fois dans la cour, dans la maison? Ou est-ce que quand la nuit est tombée, ils peuvent avoir aucun contact quand ils sont, par exemple, en petit t-shirt avec les moustiques?
Bon, ça, dire qu'ils sont au contact permanent avec les moustiques, non, parce que quand la nuit tombe, ils sont tout le temps dans la maison, on est allé à la télé, suivre les émissions et tout.
Après,
c'est difficile aussi. Hein.
C'est difficile, d'autant que les moustiques, peuvent vous piquer dehors, mais ils peuvent vous piquer à la maison aussi. Et même, vous avez parfois plus de moustiques dans la maison qui risquent de transmettre le paludisme qu'à l'extérieur. Donc, ils vont peuvent piquer tard le soir, tôt le matin, alors que vous êtes sorti de la moustiquaire. Donc, c'est vrai que...
C'est vrai qu'il y a des conseils qui ne sont pas forcément applicables au quotidien. En tout cas, merci beaucoup, Pitra Marcos, pour cette question. On a une autre question qui concerne les traitements. Professeur Houzet, c'est une auditrice du Mali. Hein. Voicasso, qui demande sur la page Facebook de Priorité Santé, si la prise de traitement du palud répétée trop fréquemment peut avoir une incidence sur le foie des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Que les médicaments qui sont actuellement administrés contre le paludisme n'ont pas été rapportés comme entraînant une toxicité au niveau du foie. Donc, s'ils sont pris à bonne dose, normalement, il n'y a pas d'incidence à ce niveau-là.
Alors, une autre question très importante et aussi, je le reconnais, assez compliquée, c'est Samba au Mali qui la pose. Est-ce qu'il est scientifiquement prouvé que la drépanocytose protège du paludisme ? Alors, ça vaudrait une émission entière.
Tout à fait. Donc, ce qui a été... Enfin, entre guillemets, prouvé, ce qui est remarqué en tout cas, c'est que les globules rouges des patients qui ont une drépanocytose, le globule rouge étant la cellule du sang à l'intérieur de laquelle va se multiplier le parasite, donc ces globules rouges sont différents du globule rouge sain du patient qui n'a pas la drépanocytose, et donc le parasite se développe plus difficilement dans les cellules drépanocytaires. Mais pour autant, il peut quand même un petit peu se multiplier, et donc c'est pas une protection absolue.
Professeur Sandrine Houzet, on va dans quelques instants partir au Burkina Faso pour retrouver le professeur Alidou Tinto, tout de suite après ce détour par le Mali en chanson avec Samba Touré, ce titre « Tamala ».
Tamala, tindir ma.
Priorité santé sur RFI, on parle du paludisme aujourd'hui avec le professeur Sandrine Houzet, responsable du service de parasitologie de l'hôpital Bichat à Paris, coordinatrice du Centre national de référence du paludisme. On échangeait, professeur Houzet, pendant ce titre de Samba Touré. Vous me disiez qu'un vrai problème que vous rencontrez, c'est que à cause du Covid, encore lui, eh bien, pas mal de médecins passent à côté de l'interrogatoire sur un voyage, un palu.
Tout à fait, comme les signes cliniques sont très proches et que la prégnance du Covid fait que elle vient en première intention, on oublie parfois que d'autres maladies peuvent survivre, continuent d'exister, et notamment le paludisme. Et j'invite tous les voyageurs qui reviennent d'une zone d'endémie, qui présentent des signes non spécifiques de fièvre, de rappeler à leur médecin qu'ils sont à risque de faire un paludisme et celui-ci doit faire en parallèle une recherche de Covid et une recherche de paludisme, d'autant que l'un n'exclut pas l'autre et qu'on peut très bien avoir un Covid et un paludisme en même temps au retour d'un voyage.
Le voyage, c'est la préparation, c'est avant et après, le suivi aussi, c'est très important. Alors, on aborde notre question du vaccin contre le palu, professeur Houzet. Est-ce que, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui dans l'arsenal, dans vos outils de lutte contre la maladie?
Le vaccin, effectivement, permettrait d'éviter de développer la maladie quand on est piqué. Jusqu'à présent, on n'en a pas les symptômes. C'est ça qu'il faut aussi rappeler, peut-être. C'est que la piqûre du moustique anophèle n'est pas douloureuse, que ce moustique fait pas de bruit. Donc, en fait, on ne sait pas qu'on a été piqué. Encore moins, on ne sait pas s'il nous a transmis la maladie. Et que la vaccination permettrait de bloquer d'emblée le développement du parasite transmis par le moustique. Ce sont les cibles, en tout cas, des vaccins qui sont en cours de développement.
Alors, c'est une question, je disais tout à l'heure en introduction, que beaucoup d'entre nous se sont posées. Même des fois, ça débouche après vers des espèces d'envolées complotistes en disant « bien sûr, on ne s'intéresse pas à certaines maladies, on a tout mis sur le Covid ». Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi c'est si compliqué de mettre au point un vaccin contre le palu, hein ? Le parasite a été, je suis allée rechercher, identifié en 1880, que par rapport au Covid-19, virus émergent, qui lui a été identifié il y a moins de 2 ans.
Donc je rappellerai que la majorité des vaccinations efficaces actuellement contre les maladies sont orientées vers des maladies virales.
Donc c'est un virus, déjà à la base.
Voilà.
L'agent pathogène.
Aucun vaccin n'est efficace actuellement contre les maladies parasitaires, tels que le paludisme. Et ce sont des organismes infectieux qui ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une complexité beaucoup plus importante que les virus au niveau de leur modalité de développement, à la fois chez l'homme et chez le moustique, avec l'expression de nombreux gènes, de nombreuses protéines, le passage par différents stades, l'infection de différents types de cellules, et l'ensemble de ces éléments complexifie énormément l'obtention d'un vaccin efficace.
La nature de la maladie rend d'autant plus difficile ce travail. Et pourtant, ce vaccin, c'est un projet sur lequel vous travaillez. Professeur Alidou Tinto, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Paré.
Vous êtes au Burkina Faso, investigateur principal du projet d'essai avec ce candidat vaccin nom de code R21, mis au point par l'Université d'Oxford avec l'Américain Novavax. Voilà, c'est complet, j'ai tout dit. Où en est aujourd'hui ce candidat vaccin?
Alors, je vous remercie. Comme vous le savez, en collaboration avec l'Université d'Oxford, nous avons travaillé au développement de ce vaccin dont le processus a commencé il y a à peu près 10 ans. Et nous avons franchi la phase 2, qui est la phase où nous devions faire la preuve du concept que ce vaccin était efficace, mais également bien toléré. Et donc, cela a été fait, ce qui a rapporté les résultats que vous connaissez. Et là, à l'étape actuelle, nous avons entamé la phase 3 en Afrique pour valider justement ces résultats observés en phase 2.
Alors, en phase 2, hein, l'étude a été publiée par la revue The Lancet en avril 2021. Avec ce chiffre, 77% d'efficacité chez les enfants qui ont reçu le vaccin. Ça veut dire quoi, 77% d'efficacité?
Alors, pour le profane et terre à terre, je dirais que si vous vaccinez et 100 enfants, vous faites en sorte que 77 évitent d'attraper le paludisme, ce qui est très important, parce que dans l'histoire de l'humanité, comme vous le savez, nous n'avons pas encore de vaccin contre le paludisme et même un vaccin contre un parasite humain. Et là, je pense que c'est un graal de pouvoir démontrer ces 77% d'efficacité.
C'est quelque chose, c'est une grande avancée. Vous disiez, la phase 3 commence dans plusieurs pays d'Afrique. Où précisément?
Alors, cette phase 3 va se dérouler dans 5 sites répartis dans 4 pays africains.
Oui.
Alors, cela est dû tout simplement au fait que la phase 2 a été conduite au Burkina où la transmission du paludisme est purement saisonnière, ça veut dire qu'elle se concentre uniquement pendant la saison de pluie. Mmh. Il est important dans cette phase 3 d'aller ailleurs pour voir dans d'autres facettes épidémiologiques. Est-ce que ce vaccin va se comporter de la même manière en donnant les mêmes résultats d'efficacité, de tolérance et de sécurité? Et c'est pourquoi le Kenya, la Tanzanie, et le Burkina Faso et le Mali ont été choisis pour conduire cette phase 3 sur 5 sites avec bien entendu 2 sites au Burkina Faso.
Et à quelle échéance les résultats sont-ils attendus, professeur Tinto?
Alors, nous avons entamé cette phase 3 au mois de mai. Les vaccinations, les primo-vaccinations, ce que nous appelons les primo-vaccinations, ça veut dire les 3 doses de vaccins ont été administrées au Burkina et au Mali. Et les autres sites vont débuter un peu plus tard. Et nous, allons vacciner les enfants et les suivre pendant 2 ans. Donc, nous pensons que le suivi va s'achever à l'horizon 2023. Et cela va nous permettre de voir si nous confirmons les résultats que nous avons obtenus en phase 2.
Vous dites 3 injections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ces 3 injections?
Alors, si je vous ramène un peu dans la COVID, où vous voyez que pour certains vaccins, il faut faire 2 doses.
Oui.
Et dans le paludisme, il faut vacciner les enfants à 4 semaines d'intervalle. Donc, ça veut dire moins 0, moins 1, moins 2. Cela permet d'augmenter le niveau de protection comparé à une seule injection. C'est tout simplement cette approche qui a été utilisée. Et aujourd'hui, nous donnons 3 doses de vaccin. Et un an après, nous allons donner une dose de rappel.
D'accord.
Parce que c'est là aussi, c'est un signe de l'expérience que nous avons eue avec les autres vaccins.
Donc, c'est très important de bien comprendre ce calendrier parce qu'il va permettre d'augmenter la couverture, comme on dit. Alors, question essentielle quand on parle de ces vaccins pour l'Afrique subsaharienne. Et le continent le vit pleinement actuellement avec le Covid. C'est la fabrication, la logistique, le coût, bref, l'accès au vaccin. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce qui se profile pour ce vaccin R21?
Alors pour R21, il faut dire qu'il y a eu une grande anticipation lorsqu'on s'inspire un peu des échecs du passé. Mmh. Et nous travaillons en collaboration avec le Serum Institute of India qui s'est engagé à produire 200 millions de doses par an si ce vaccin aboutissait en phase 3. Et donc, nous ne devrions pas avoir de problème d'approvisionnement de ce vaccin pour couvrir une bonne partie des pays africains. Alors, il faut dire que cette logistique, elle est importante et malheureusement, en Afrique, nous ne disposons pas encore de cette logistique capable de produire 200 millions de doses par an. Et donc, la firme indienne va nous accompagner justement si ce vaccin arrive à être enregistré.
Pourtant, on a actuellement des usines de fabrication en Afrique du Sud. On a vu qu'ils exportaient les vaccins vers l'Europe parce qu'ils avaient été commandés en Europe. Ça veut dire que si on en a la réelle volonté, on peut implanter des fabriques en Afrique?
Tout à fait. Et je pense que c'est l'approche qui est actuellement conduite par l'Union européenne qui a entrepris de financer justement l'implantation de nouvelles fabriques de vaccins, aussi bien en Afrique du Sud, mais également au Sénégal. Et donc, on espère que tous ces efforts mis ensemble permettront justement d'augmenter la couverture des enfants africains si ce vaccin venait à être enregistré.
Professeur Tinto, c'est bien cela. Ce vaccin, il sera vraiment destiné aux enfants?
Oui, c'est clair et il faut le préciser. Pour le moment, ce vaccin ne sera pas utile peut-être pour les adultes, mais il s'agit des enfants de moins de 5 ans, car nous avons travaillé sur une cible de 5 à 17 mois. Et donc, c'est cette cible qui sera visée lorsque ce vaccin venait à être enregistré. Alors, il faut dire que c'est cette tranche d'âge également qui est concernée par le paludisme en termes de gravité et de mortalité. Et il est important de cibler cette tranche d'âge.
Alors, en même temps, il y a d'autres vaccins antipalus qui sont en cours de développement. Comment est-ce que vous percevez ces autres projets? Vous regardez ça comme de la concurrence ou vous regardez ça plutôt comme des camarades?
Non, pas du tout, c'est pas de la concurrence. Comme vous savez, l'humanité existe depuis très longtemps et nous n'avons pas de vaccin contre le paludisme. Et donc, tout effort tendant justement à proposer une solution en termes de vaccinologie dans le domaine du paludisme est la bienvenue. Bien entendu, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs autres vaccins qui sont en cours de développement, mais pour la première fois, un vaccin arrive à atteindre un seuil d'efficacité de 77%, c'est du jamais vu. Et bien entendu que les autres équipes également vont s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire pour peut-être nous proposer une nouvelle génération de vaccins qui protège à 90% peut-être.
C'est le professeur de médecine qui parle, mais est-ce que vous pensez que c'est exactement la même chose du côté du labo qui est en train de financer tout ça?
Alors, moi, de toute façon, je suis un chercheur, et je suis un Africain.
Ouais.
Et donc, moi, je ne suis pas commercial. Et
tout à fait.
Moi,
c'est pour ça que j'insiste sur ce point. C'est pour ça que j'insiste sur ce point.
Oui, et j'apprécierais toute collaboration qui peut permettre de proposer des solutions aux problèmes des maladies des pays africains, et notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Et je suis preneur de toute collaboration, hormis des laboratoires qui viendrait proposer justement un vaccin efficace à 90% par exemple. On sera très heureux de travailler en collaboration avec une équipe qui nous proposera un vaccin d'une telle efficacité.
C'est le sens de la santé publique. J'ai une dernière question qui concerne bien sûr peut-être davantage l'Occident, mais ça existe aussi en Afrique et les auditeurs de Priorité Santé sont là pour nous le rappeler. On sait qu'avec le Covid-19, il y a une défiance importante par rapport à la vaccination. Est-ce que vous pensez que ça pourrait compliquer la vaccination anti-palu, voire par exemple quand on est en phase d'essai, des papas, des mamans dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau vaccin ? Oh là là, qu'est-ce que vous allez faire des essais sur mes enfants ?» D'autant plus qu'il y avait eu des propos pour le moins malheureux, voire épouvantables de médecins concernant des tests de vaccins en Afrique. Comment est-ce que vous ressentez tout ça ?
Alors, il faut dire que le paludisme est totalement différent de la COVID, dans la perception des Africains. Parce que lorsque nous avons mené des enquêtes ici, les gens ne perçoivent pas la COVID comme un problème pour les Africains. Si vous regardez le nombre de décès, c'est très faible, le nombre de cas. Et donc, le paludisme, les gens le ressentent au quotidien. Ils voient leurs enfants mourir. La réaction n'est pas la même chose. Mm-hmm. Et nous travaillons depuis plus de 10 ans ici au Burkina sur des essais vaccinaux. Nous n'avons pas été confrontés à une résistance, justement, à adhérer à nos essais cliniques à recevoir ces vaccins. Donc, nous ne pensons pas qu'avec le vaccin contre le paludisme, nous serons confrontés à la même résistance que le vaccin contre la COVID-19.
Parce que c'est une préoccupation prioritaire. Merci beaucoup, professeur Tinto. Très, très bonne continuation. Évidemment, on suivra avec vous la suite de ces essais conduits donc notamment au Mali et au Burkina. D'autres projets engagés, un programme pilote de l'OMS avec le candidat vaccin du labo britannique GSK, des essais au Malawi, au Ghana, au Kenya, le fruit de 30 ans d'efforts. 4 doses, là encore, jusqu'aux 2 ans des enfants. Et puis, dans nos studios, toujours avec nous, professeur Sandrine Touzé. Pour vous, justement, je posais cette question concurrence-émulation. Pour vous, c'est une bonne chose que plusieurs équipes travaillent en même temps sur la même maladie ?
Oui, parce qu'elles ont des approches différentes. Donc, et puis, on ne peut plus travailler tout seul dans son coin. La recherche est coûteuse, compliquée. Et donc, de mutualiser ses forces et de multiplier les forces sur une maladie telle que le paludisme ne peut être que bénéfique pour tous.
Et c'est vrai, quand on entend le professeur Alidou Tinto, il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est quand même très, très, je ne sais pas, il y a énormément de travaux qui sont faits sur ces recherches. C'est porteur d'un immense espoir. Vous regardez ça comment ? Vous dites plutôt prudence ou vous dites allez-y ?
Je pense qu'il faut au contraire être très positif. Il y a plein de résultats très intéressants. Par contre, la route est encore longue et j'espère effectivement que les résultats très encourageants avec ce nouveau vaccin seront confirmés dans le futur. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir de nouvelles connaissances et donc ensuite peut-être à partir de ces nouvelles connaissances pouvoir élaborer d'autres démarches, d'autres protocoles pour aller encore plus loin. Donc à chaque fois, c'est une marche supplémentaire dans la qui est grimpée pour arriver jusqu'à la lutte et peut-être l'éradication du paludisme.
Alors tout de suite, le regard du directeur général de Rollback Malaria, justement objectif en finir avec le paludisme, qui nous a accordé cet entretien il y a 24 heures.
Priorité santé sur RFI.
On parle donc maintenant de cet autre vaccin en projet qui a le soutien de votre organisme, du partenariat RBM, en finir avec le paludisme. Docteur Abdourahmane Diallo, bonjour.
Bonjour.
On parle donc de ce projet, ce candidat vaccin qui s'appuie sur une autre technologie, l'ARN messager. On en a beaucoup entendu parler pour le vaccin anti-Covid. Et c'est d'ailleurs la même firme, le couple BioNTech-Pfizer, qui se lance dans ses recherches. Ces recherches donc, docteur Diallo, avec l'appui de votre organisme.
Il y a déjà ce vaccin connu sous le nom de RTF, qui a fini sa phase 3 d'études et qui est en étude pilote dans 3 pays d'Afrique en ce moment, à savoir le Ghana, le Kenya et le Malawi. Et beaucoup plus récemment, le vaccin R21 qui est en phase d'étude, notamment au Burkina Faso. Et nous, nous sommes très très contents de voir que l'expérience de la lutte contre cette pandémie de Covid-19 a permis donc d'évoluer également dans le développement de vaccins contre le paludisme. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction l'annonce du groupe BioNTech de se lancer dans le développement d'un vaccin contre le paludisme en utilisant la technologie de l'ARN messager, justement.
Docteur Abdourahmane Diallo, pour vous, plusieurs projets en même temps, comme vous l'avez cité, c'est une concurrence positive, une émulation ?
Absolument. Vous savez, il n'y a franchement pas de solution miracle hein, pour une maladie aussi complexe et dynamique que le paludisme. Donc, bien que des centaines de milliers de vies soient sauvées chaque année, nous savons que l'ensemble des outils actuels ne suffira pas à éradiquer le paludisme.
Docteur Diallo, vous avez cité le vaccin RTS qui est donc testé, mais lors des essais, on a vu qu'il ne couvrait pas justement en termes de prévention les pourcentages attendus par l'OMS. On est à 55% de réduction des cas et on tombe carrément à 39% sur 4 ans. C'est loin d'être vraiment ce qui est attendu pour sécuriser la vie des enfants.
Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de trouver un seul outil, dans ce cas un seul vaccin, qui serait la solution miracle. Il s'agit plutôt de trouver donc une arme supplémentaire qui se joindrait à ce qui existe déjà.
Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vaccine son enfant qu'on se passe des autres moyens de prévention. Ça, c'est un message essentiel à communiquer aux parents.
Absolument, absolument. Nous ne percevons pas ce vaccin comme étant un outil unique et qui ferait qu'on se passe des autres moyens qui existent. C'est un outil supplémentaire.
Alors, lutter contre le paludisme alors que la planète est mobilisée contre la pandémie de Covid, des recherches du Fonds mondial viennent justement d'évaluer l'impact de la crise sanitaire sur la riposte aux grandes infections, hein, palu mais aussi VIH et tuberculose. Qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui ?
Ce qu'on peut dire, c'est que nous, au début de l'année 2020, nous avions une grosse inquiétude avec la survenue de la pandémie à Covid-19. On se demandait ce qui allait se passer. Les projections initialement faites par l'OMS et ses partenaires ont montré qu'on courait le risque d'avoir le nombre de décès en Afrique subsaharienne doublé. Donc, malgré tout...
Le pire n'est pas arrivé.
Exactement, grâce à l'engagement des pays et d'une mobilisation sans précédent de tous les partenaires, quand même on a évité le pire. Et ce rapport dont vous mentionnez a montré que malgré tout, il y a eu quand même une augmentation de la distribution des moustiquaires imprégnés d'environ 17% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2019.
Et on remercie le docteur Abdourahmane Diallo, directeur général du partenariat. On finira avec le paludisme. Nos excuses pour la piètre qualité de cette communication. Professeur Sandrine Touzé, on vous retrouve pour la conclusion de notre échange. On a bien compris, développement de vaccins, candidats vaccins attendent des résultats, des progrès à confirmer. Mais en matière de prévention, on peut dire qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Parce que, par exemple, en me documentant pour préparer l'émission, j'ai vu que seule la moitié des enfants de moins de 5 ans dort chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée. Comment est-ce qu'on peut augmenter, comment est-ce qu'on peut encore mieux sensibiliser ?
C'est vrai que dormir sous moustiquaire, c'est contraignant, mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas d'autres armes efficaces. Donc, il faut vraiment rappeler aux parents que c'est fondamental de protéger leur enfant vis-à-vis de la piqûre du moustique et que c'est le seul moyen à ce jour pour pouvoir éviter qu'ils contractent le paludisme. Ensuite, après, eh bien, il faudrait qu'ils puissent les traiter rapidement, mais c'est une course sans fin. Et donc, prévenir vaut mieux que guérir. Et malheureusement, la moustiquaire est le seul moyen à ce jour qui est en notre possession et qu'il faudrait s'utiliser.
Il y a un élément important dont on n'a pas parlé, professeur Rouzet, c'est le facteur temps. Quand il y a les premiers signes de la crise de palu, agir rapidement. Je vous ai vu d'ailleurs tout à l'heure réagir quand un auditeur disait « je fais passer avec du paracétamol, j'attends 3 jours et puis là j'y vais ». En fait, une des recommandations aux parents, c'est d'aller faire le test, d'ailleurs tout de suite. Ça peut être pris en charge dans certains établissements de santé, ça peut être gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, il faut le savoir aussi. Et donc ne pas hésiter à aller à l'hôpital ou au centre de santé.
Tout à fait. On sait que le paludisme, il peut évoluer rapidement en quelques heures. Et quand on regarde la différence entre l'enfant qui va guérir et l'enfant qui malheureusement va décéder du paludisme, eh bien le délai de prise en charge, la différence entre les deux n'est que de quelques heures. Donc c'est une course contre le temps.
Contre le parasite. Progrès aussi en ce qui concerne le traitement préventif au cours de la grossesse. Juste un mot de conclusion, parce qu'il y a des risques spécifiques pour les femmes enceintes.
Tout à fait. Le paludisme chez la femme enceinte, notamment quand c'est la première grossesse de la femme et qui contracte le paludisme à ce moment-là, il y a des risques d'accouchement prématuré, il y a des risques d'avoir un bébé qui est de petit poids, qui donc va être plus fragile à la naissance, il y a des risques aussi pour la maman de faire un accès grave. Et donc, dans un certain nombre de pays, il y a des protocoles de traitement préventif du paludisme, ce qu'on appelle gestationnel, pour justement, là, on va mettre la maman sous prophylaxie, donc sous traitement médicamenteux antipaludisme pour éviter qu'elle développe le paludisme au cours de sa grossesse.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Professeur Sandrine Nouzet, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes responsable du service de parasitologie de l'hôpital Bichat à Paris, coordinatrice du Centre national de référence du paludisme.
Priorité santé.
Priorité santé.
La santé, c'est une priorité.
Sur RFI.
Et les maladies infectieuses au pluriel, au cœur de notre émission du jour. On parle à présent d'Ebola, du suivi de la maladie à virus Ebola, avec les résultats de l'étude post-Ebogi. En ligne, professeur Éric Delaporte, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur d'une unité de recherche de l'Institut de recherche et développement de l'INSERM sur le sida et les maladies émergentes. Vous êtes également l'un des principaux investigateurs de cette étude qui nous intéresse, qui a permis de suivre des survivants en Guinée. Parce que bien sûr, si la grande épidémie qui avait fait 11 000 morts entre 2013 et 2016 avait donc tué, mais il y a eu aussi ces 17 000 personnes qui ont survécu, qui ont été déclarées guéries. Votre étude, professeur, a concerné combien de cas ?
Alors, c'est basé à Conakry et à Nzéré-Corée. Sur les 1200 survivants de la Guinée, on en a suivi 800 depuis 5 ans, effectivement. C'est un projet qui a été élaboré par les professeurs Saliusso du CHU de Donka, de l'Aïtouré, de l'INSP et Alpha Keita du CERFIG. Et quand vous parliez de guérison, à l'époque, on disait que les gens étaient guéris simplement sur la disparition du virus dans le sang. Or, après être sortis d'un centre de traitement, les gens étaient cliniquement encore avec beaucoup de manifestations, donc ils n'étaient pas guéris cliniquement. Mmh. Et donc le projet, c'était de les prendre en charge et puis d'étudier comment ils allaient réellement guérir.
Et on a compris où était logé le virus qui pouvait peut-être expliquer aussi, c'est vrai qu'on peut avoir des séquelles même lorsqu'on s'est complètement débarrassé d'un virus, mais on peut aussi avoir une possibilité de transmission même lorsque l'on est déclaré guéri. Et c'est bien ce qu'on a découvert, professeur Delaporte.
Tout à fait. Alors, en fait, on a découvert plusieurs choses. D'une part, c'est que les survivants pouvaient avoir des séquelles liées à la destruction du virus lors de la phase aiguë, donc une insuffisance rénale. D'autre part, les survivants pouvaient avoir des manifestations psychologiques liées à la stigmatisation, le traumatisme qu'a entraîné Ebola. Et surtout, troisième aspect, les personnes pouvaient avoir ce qu'on pourrait appeler un Ebola long, comme le Covid long, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le virus pouvait persister au niveau des endroits qu'on appelle les sanctuaires, les lieux de privilège humain, c'est-à-dire des endroits où notre système d'anticorps protège un peu l'organe, parce que sinon on détruirait notre organe. Donc on sait que le virus peut être au niveau de l'œil, du système nerveux central, également au niveau du sperme, et il a été mis en évidence des transmissions sexuelles du virus. Par exemple, à la fin de l'épidémie d'Ebola de 2016, on croyait que l'épidémie était finie, et puis il y a eu de nouveau une petite résurgence à partir d'une transmission sexuelle. Et donc effectivement, c'était une très très grande nouveauté de voir que finalement, dans le corps, on pouvait garder ce virus assez longtemps sans qu'il se manifeste. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu justement, par rapport à ce point très précis, et c'est une question importante, une sensibilisation des survivants au risque potentiel de transmission ? On pense, comme pour d'autres infections virales, par exemple, des conseils en matière de port du préservatif. C'est très concret ma question, mais c'est quand même très important.
Vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut faire la part entre le risque, qui est extraordinairement faible, mais qui peut entraîner des catastrophes, et ne pas stigmatiser surtout cette population qui a été traumatisée. Donc, ce qui avait été organisé, hein, c'est les recommandations de la NSS, hein, que dirige le docteur Saint-Cobard, c'est le port du préservatif, et puis le dépistage très régulier au niveau du virus, au niveau du sperme. Et dans le sperme, on n'a jamais vu du virus après 18 mois. Et donc ça, c'était un élément très important. Il y avait ce suivi qui avait été mis en place justement sur base des données de post-ébolie.
Est-ce que vous avez pu comparer l'immunité des survivants par rapport à celle des personnes qui ont été vaccinées contre Ebola ?
Alors voilà, donc on vient de terminer une analyse qui était de voir comment, quand on est infecté, on a une réponse en anticorps. Et alors on était très surpris de voir, et tant mieux, c'est que à 5 ans, les 3/4 des survivants ont encore beaucoup d'anticorps. Par contre, il y en a un petit quart, un petit tiers, entre un quart et un tiers, qui ont une baisse de leur immunité. On a été surpris également de voir que, au lieu que le taux d'anticorps diminue de façon naturelle avec le temps, comme on l'observe dans toutes les autres maladies, de temps en temps, on avait, pour quelques patients, mais vraiment rare mais réel, une augmentation des anticorps, comme si le virus au niveau du réservoir était restimulé, et restimulait le système immun. Et donc ça voulait dire qu'il y avait encore persistance du virus. Ce qui, et pour répondre très clairement à votre question, on n'a pas encore les données des essais vaccinaux et des études vaccinales pour voir l'immunité sur le long terme. Mais ça sera très intéressant justement de voir entre l'immunité entre guillemets naturelle et l'immunité acquise par le vaccin s'il y a une différence. Mais cette persistance des anticorps sur le long terme est une assez bonne nouvelle par rapport à une efficacité vaccinale potentielle.
Et on a bien compris en vous écoutant, professeur Delaporte, ça veut dire que le suivi de ces patients se poursuit.
Alors malheureusement, on a le suivi de type post-ébolie, c'est-à-dire très 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 structuré, a été arrêté il y a maintenant quelques mois, mais la prise en charge des survivants dans les centres adaptés se poursuit, bien évidemment.
C'est l'essentiel, qu'on continue à suivre ces personnes. Merci infiniment, merci beaucoup professeur Delaporte d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de maladies infectieuses également à l'Université de Montpellier. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Caledec, Steven Elsley et Laurent Hérault. Demain, les jeunes auditeurs de l'émission témoignent à partir de 9h10. Temps universel, on parlera de la famille. Enfants préférés, enfants négligés, estime de soi, pression, jalousie. Pourquoi certains parents font-ils des différences au sein de la famille? On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.